voulez faire quoi du coup?
Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Bah, je sais pas.
On prend le direct.
Et c'est presque pas prévu.
Bienvenue dans les directs impromptus de Barthès.
Ce qui change pas, c'est que ça bouge toujours.
Les directs impromptus, c'est sur Barthès.
Sans cet FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthès en direct du festival Bulle de Burle. Enimi BD qui bat son plein à la technique, c'est Corto, merci à toi. Et Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Mais qu'est-ce que tu fais là?
Bah, c'est les vacances qui commencent, il fait beau, je suis venu au bord de la rivière à Saint-Enimi, voilà.
Alors, t'es prof d'histoire ici à Saint-Enimi.
Oui.
Et tu vas nous faire ta chronique Histoire Brève. Alors, on t'a pas mis de jingle aujourd'hui parce qu'on avait pas envie, il fait trop chaud pour ça. Histoire Brève, tu vas nous parler de quoi?
Je vais essayer de parler de l'ancêtre de la BD peut-être, qui sait, en tout cas peut-être quelques artistes qui ont pu aspirer. On remontera au Moyen-Âge pour ça.
Toi t'as la classe hein, mais vraiment. Je t'appelle il y a deux jours et tu ponds une chronique comme
c'est
ça.
C'est pour ça, il faudra qu'on reparle de mes honoraires. Peut-être,
peut-être. Oublie pas qu'on va rendre l'antenne à midi. Hein. Il mange après.
Oui, d'accord.
pour ce plateau exceptionnel, nous avons la chance d'avoir quelques lauréats du prix de Saint-Enimi BD. Merci à toute l'asso de nous avoir offert cette opportunité. Merci beaucoup à Philippe. Et nous sommes en plateau avec Amandine. Bonjour.
Bonjour.
Miss Tinguette, tu as gagné le prix du jeunesse, Canoë Kid. Ça va?
Oh bah oui, ça va plutôt bien.
Et Serge Deloupi, bonjour.
Bonjour.
Je tourne la page, toi tu as remporté le prix Nouveauté. C'était hier la remise des prix. Ça fait quoi de recevoir un prix comme ça, Serge?
C'est toujours bien, c'est toujours quelle que soit la récompense, c'est toujours quelque chose qui tombe au bon moment pour un livre.
On en reparlera. Appelé d'Algérie, c'est ton deuxième projet, puisque le premier c'était Algérienne, si je ne m'abuse. Nous recevrons en deuxième partie d'émission Serge Carrère pour entre autres son œuvre Léo Laden, mais pas que. Et on y va sans transition, tu peux couper le bed, Amandine. Miss Tinguette, mystère sur internet, co-scénarisé par Greg Tessier. Le prix jeunesse Canoë Kid, hier tu as dit à la remise des prix que c'était le plus beau des prix, pourquoi?
Mais c'est vrai que pour de la bande dessinée jeunesse et pour nous, c'est toujours les plus beaux prix quand ce sont les enfants qui élisent leur livre préféré. Et du coup, savoir que c'était un jury d'enfants qui a pris le temps de lire Miss Tinguette et aussi les autres titres et puis qui nous a décerné le prix, ben voilà, c'est pour ça qu'on fait de la bande dessinée. C'est pour les enfants, c'est pour leur parler.
Comment ça a commencé pour toi cette aventure de Miss Tinguette, mais aussi de la bande dessinée en général?
J'ai toujours su que je voulais faire de la bande dessinée parce que cela permet d'allier deux passions, la bande dessinée, le dessin, et raconter des histoires. Et pour ça, la bande dessinée, c'était le média parfait. Je me suis assez vite orientée vers la jeunesse et le projet de Miss Tinguette est né il y a environ 11 ans aux côtés de Greg Tessier. On en a monté le projet ensemble et on a eu la chance d'être très vite suivi par les éditions Jungle. Et voilà, maintenant ça fait 12 tomes que ça existe.
Est-ce que la source d'inspiration est intéressable?
Ah oui, complètement. Plus on en écrit et plus on a d'idées, parce que bah, maintenant que ça fait quand même 11 ans que Miss Tinguette nous accompagne, pour nous c'est presque comme si elle existait pour de vrai. Et donc pour chaque situation, chaque thématique, on se dit ah bah oui, forcément elle réagirait comme ça, ça serait comme ceci.
Alors c'est forcément des sujets entre guillemets sociétaux, hein, parce que l'amour, le chat aussi, son chat, c'est important, un chat. Mmh. Hein. Et là, mystère sur internet. C'était pas trop costaud de s'attaquer à ça, parce que la toile, c'est immense. Et pourtant, alors c'est peut-être qu'il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'un tome a suffi? Ou alors est-ce que vous en imaginez deux ou trois?
Alors, comme sujet principal, c'est vraiment dans ce tome-là. Après, l'avantage de Miss Tinguette, c'est que c'est un personnage ancré dans le quotidien qui nous permet d'aborder sous une allure légère et joyeuse plein de sujets. Et Internet nous tenait à cœur parce qu'on a des lectrices qui ont en général entre 8 et 12 ans, donc c'est vraiment l'âge où elles vont découvrir tout ça. Et on parlait à la fois d'Internet, du rapport aux réseaux sociaux et du coup aussi du cyberharcèlement. Mais toujours sous des abords légers, voilà, ça s'adressait à notre public, et avec des petites pages aussi explicatives de qu'est-ce que c'est, et plein de mots-clés qu'on peut retrouver sur Internet.
Miss Tinguette, quand je la vois, vraiment juste la voir, elle est lumineuse, interloquée et pétillante. Est-ce que ça tirait comme adjectif ou est-ce que t'en as d'autres?
Bon, ceux-là sont déjà pas mal. Après, Miss Tinguette, c'est aussi quelqu'un qui avance, qui est dans l'apprentissage. Elle a pas toujours bon caractère, elle se braque, elle aime pas trop la nouveauté, mais finalement, elle va de l'avant et elle décide d'apprendre.
Quel conseil tu donnerais justement aux enfants, aux adolescents qui voudraient se lancer dans la bande dessinée ?
De beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiner, de ne pas se décourager et de ne pas hésiter à montrer son travail. C'est surtout souvent via le regard des autres qu'on se rend compte de ce qu'il faut améliorer. Et quand on fait de la bande dessinée, il faut vraiment essayer que la bande dessinée puisse être lue par les autres, savoir qu'on s'adresse aux autres et que même si on n'est pas là, il faut qu'elle soit compréhensible. Et voilà, pour les enfants, c'est ça.
Comment vous réalisez une bande dessinée avec Greg ? Est-ce que vous discutez avant d'un thème et après c'est chacun dans votre coin et vous vous envoyez un peu les idées comme ça ? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment autour d'une table tout le temps en train de bosser sur votre ordi ou sur vos planches ? Comment ça se passe, la création de Miss Tinguette ?
Alors on est rarement autour d'une table parce qu'on travaille beaucoup à distance, ou alors on est autour de chacun sa table. Et en général on décide ensemble du thème général de l'album. On en a plein en réserve et c'est plutôt lequel on va continuer en premier. Et puis une fois qu'on a le thème général, c'est Greg qui commence à le développer, puis qui me l'envoie et là je rebondis et on s'échange des mails comme ça jusqu'à ce que le scénario nous plaise à tous les deux, et ensuite on le fait valider par la maison d'édition. Et en général pour un album, on est en contact permanent par mail presque tous les jours de toute l'année.
Est-ce que alors le mot va être un peu violent, désolé, mais est-ce que vous avez des pressions de la part d'une maison de votre maison d'édition, du coup Jungle, pour une deadline en fait à envoyer vos planches et les BD, ou alors est-ce que vous êtes plutôt tranquille et vous pouvez bosser peinard?
Les deux. En fait, la maison d'édition est super à l'écoute, donc on choisit la deadline ensemble, il n'y a pas de pression particulière. Par contre, une fois que la deadline est fixée, il faut la tenir, parce que derrière, il y a d'autres enjeux, il y a du monde qui travaille dans la maison d'édition, et donc il faut qu'on puisse respecter les délais. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout quand j'en suis au dessin, et ensuite à la mise en couleur, et c'est pas toujours évident de commencer dans les délais l'album, et ensuite de finir.
Amandine, quelle est l'importance pour toi de participer à ce genre de festival comme une BD, parce que je suppose que comme tous les auteurs, il faut en faire, il faut en faire énormément parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Qu'est-ce que tu penses de ces festivals ? Est-ce que c'est plutôt fatigant, fastidieux, bien, super ?
Moi je trouve ça génial.
C'est difficile de dire autre chose en même temps.
Voilà, alors on peut couper le micro.
Allez, on fait du off.
Non, c'est vraiment génial. En fait, pour moi, je vois pas du tout ça comme une contrainte. Au contraire, c'est une chance d'aller au contact des lecteurs et des lectrices. C'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait, parce que sinon, on est chez nous, on a l'impression de faire les albums un peu pour nous, alors que le but, c'est d'être lu. Et même si on sait que les albums se vendent, le rapport avec les lecteurs, les retours, c'est ce qui nous motive. Donc en fait, en général, quand on ressort d'un festival BD, on est à la fois essoré et surmotivé.
Est-ce que tu as eu Greg hier au téléphone pour lui dire que tu avais eu le prix Canoë Kid ?
Je lui ai envoyé un petit mot.
et justement, est-ce que toi, tu as d'autres projets comme ça qui sont en cours de création en dehors de Miss Tinguette, ou alors est-ce que ça te prend vraiment tout ton temps ?
Ah, c'est vraiment Miss Tinguette en ce moment qui m'occupe pleinement, puisqu'on a Miss Tinguette, on a la série dérivée sur son petit chat cartoon, et on est en train de monter le projet d'une troisième série, toujours dans l'univers de Miss Tinguette.
C'est spin-off, on appelle ça ?
Ouais, c'est bien ça.
et est-ce que Miss Tinguette, le tome prochain, vous avez déjà trouvé l'idée ?
Oui.
Alors ?
Ah, bon là. Alors.
On coupe le micro, si tu veux. Raphaël, dis deux, trois mots.
Non, mais ça parlera à la fois de quelque chose d'assez joyeux, parce qu'on emmène Miss Tinguette en croisière pour le remariage de sa grand-mère, mais du coup, ça abordera aussi le thème de la famille recomposée.
Et est-ce que tu as peur des fois parce que là, bon, je comprends qu'en plus c'est en construction, etc. Est-ce que ça fait peur des fois de se faire piquer les idées, les gags, ou alors de créer un gag, une situation, et de la trouver ailleurs en se disant ah zut, ou alors de trouver d'autres idées et de se dire tiens, j'aurais bien aimé l'avoir celle-là.
Bon, en tout cas, c'est stimulant, on va dire. Non, il n'y a pas de peur de se faire piquer des idées parce que chacun le raconte à sa façon, en fait.
Le séquençage, comment ça se passe sur une BD ?
Alors, en tout cas, sur Miss Tinguette, Nous, il y a vraiment une grande liberté quand le texte est écrit, c'est du page à page, avec à chaque fois ce qui va se dérouler grosso modo dans une page et surtout tous les dialogues. Et ensuite, moi, à partir de ça, je prends en main le découpage et souvent, à ce moment-là, je peux encore réécrire des bouts et les renvoyer à Greg pour qu'il s'adapte. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un échange constant.
Les ogres de Barbac ont dit dans une chanson si cet air, si les enfants s'ennuient en l'écoutant, j'arrête cette air, je l'abandonne. Est-ce que ça pourrait être le cas pour Mistinguette ou pas ?
Ça pourrait, mais on va essayer de tout faire pour qu'ils ne s'ennuient pas.
Est-ce que tu les fais lire juste avant qu'ils soient parus par des enfants ? Ou est-ce que tu as des lecteurs, lectrices, juste avant que ça paraisse ?
Non, c'est vraiment quand c'est publié que c'est lu par les enfants.
Mistinguette, mystère sur Internet, qui a reçu le prix Canoë Kid, félicitations et merci beaucoup.
Ben merci.
Serge, alors là, Serge de Loupi, un autre sujet. Toi, tu as reçu le prix Nouveauté pour Appeler d'Algérie, juste après Algérienne, où tu t'intéresses à une période, si je ne m'abuse, c'est 1954-1962.
C'est ça,
ouais. Est-ce que quand tu as commencé, vous avez commencé, hein, parce que t'es pas tout seul, et je pensais que je l'ai noté.
C'est Swann Merali qui m'accompagne.
Swann Merali, merci. Swann Merali, et est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur ce projet, vous aviez peur, vous aviez des appréhensions, vous vous êtes dit dans quoi on s'embarque ?
Alors, c'est évidemment un sujet hyper complexe, mais moi, il n'y a que ça qui me motive quand j'attaque un projet de bande dessinée, c'est de me dire... Allons vers quelque chose d'abord que je connais pas moi ou qui m'intéresse, et puis essayons de le partager avec les lecteurs, lectrices, parce qu'il y a quelque chose à dire sur ce sujet-là. Quoi. La bande dessinée a un peu investi. Il y a Jacques Ferrandez qui a beaucoup écrit et dessiné sur la guerre d'Algérie. Mais finalement, quand on regarde le nombre de productions depuis plusieurs années, il n'y a pas tant de choses que ça sur la guerre d'Algérie. Le cinéma français s'y est peu intéressé, finalement. C'est une guerre qui dure presque 10 ans. Et pour autant, quand on regarde le nombre d'ouvrages, le nombre de culturellement, c'est presque une absence quoi dans la société française.
Alors justement, comment vous avez travaillé ? Parce que finalement, comme tu dis, peu d'ouvrages. Voilà, historiquement, c'est quand même compliqué parce qu'il y a un gros tabou en France. On va pas se le cacher par rapport à cette guerre d'Algérie. On va un peu dans le bon sens, j'ai l'impression, depuis quelques années. Mais comment on travaille ? Comment vous allez rechercher des informations ? Comment ça se passe vraiment le travail de fond ?
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'on est, ni historien, ni journaliste, par exemple. Donc moi, j'ai beaucoup bossé avec des journalistes. C'est une approche tout à fait différente d'un sujet. Avec Swann, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Donc on s'est penché sur des témoignages. Pour Algérienne, Swann était allé chercher des témoignages de femmes qui avaient vécu la guerre d'Algérie, plutôt côté algérien, mais pas seulement des femmes qui étaient harkis, enfin, plein de cas différents. Et on a construit l'histoire à partir de ces témoignages-là. Mais en mélangeant les témoignages, c'est-à-dire en prenant parfois pour faire un personnage plusieurs éléments de plusieurs témoignages. Puisque l'idée, c'était pas de recenser une personne en particulier, mais de faire un portrait, en fait, de cette guerre d'Algérie à travers ces femmes. Et sur Appeler d'Algérie, on a fait exactement le même système. Ça nous donne beaucoup de liberté, en fait. C'est moins contraignant que de faire de la BD documentaire. On est dans une forme de liberté qui nous permet de raconter à la fois cette guerre très complexe et aussi des histoires d'individus, d'humains, d'humaines qui sont confrontés à tout ça.
C'était un choix dès le départ de l'arrêter en 62 et l'indépendance de l'Algérie, alors que finalement, peut-être l'arrêter 2, 3, 4 ans après, avec entre guillemets tous les dommages, je dirais, collatéraux qu'il y a eu, vous auriez peut-être pu un peu continuer un peu plus loin.
C'est-à-dire qu'on a fait Algérienne en 2018 sans se dire qu'on ferait Appeler 4 ans plus tard. Et aujourd'hui, on fait Appeler et forcément, en ayant des discussions justement en dédicace avec des journalistes, avec plein de gens, des historiens, on commence à se dire, tiens, ça serait intéressant d'aller creuser aujourd'hui sur l'après-guerre d'Algérie. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, d'un truc, c'est que, évidemment, une grande partie des pieds noirs rentrent en métropole, mais une partie reste en Algérie. Une grande partie des soldats français rentrent en métropole, mais une grande partie reste pour garder le Sahara, le pétrole et le nucléaire. Donc il y a plein de choses qui se passent dans l'après-indépendance qui sont hyper intéressantes et qui ont le même écho aujourd'hui qu'à la guerre d'Algérie dans la société française. Donc Moi, je suis engagé sur plein de projets, Swan aussi, mais d'ici peut-être 4 ans, on se retrouvera autour d'une table pour faire un autre projet.
C'est ce que tu disais hier, la remise des prix, un troisième tome, et là, passer la Méditerranée et voir un peu toutes ces conséquences-là.
Oui, alors on a envie, c'est vraiment une envie qu'on a depuis très longtemps, c'est-à-dire d'atterrir à Alger ou de passer en bateau à Alger, de rester quelques jours à Alger parce que c'est une ville absolument super. Et de prendre une bagnole et de faire un road trip sans savoir vraiment ce qu'on va rencontrer, qui on va rencontrer, mais susciter les rencontres pour se servir de ce voyage, pour qu'on ne soit pas autour d'une table, j'allais dire très basiquement en train d'écrire un scénario, mais essayer de vivre un scénario pour ensuite le tirer à nous et en faire quelque chose.
Question de partage.
Voilà.
Et là, et justement, je connais pas du tout l'Algérie. Comment se passe la BD là-bas? Est-ce que ces deux projets ont été lus là-bas? Comment ça a été reçu?
Alors algérien un peu, parce qu'on est allé le défendre sur un festival qui s'appelle le Festival de la bande dessinée d'Alger. On était allé à Alger quelques mois auparavant pour les besoins du bouquin. Alors, je mets un bémol à tout ça, c'est qu'un album de bande dessinée, ça coûte très très cher en Algérie. C'est presque une semaine de travail, donc c'est pas accessible à la majeure partie de la population. Mais en ayant discuté sur place du sujet, c'est un sujet qui est plutôt pacifié, la guerre d'Algérie, parce que l'Algérie a gagné la guerre. Ça explique aussi pourquoi il y a une forme de tabou ici en France. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie a été perdue par les Français. On a même perdu une partie du territoire, puisque c'était 3 départements français. Donc c'est toujours plus difficile de parler de quelque chose dans lequel, en plus, on a eu un rôle assez difficile et assez négatif. L'armée française a été assez violente sur les événements.
Mais c'est un euphémisme.
Oui, c'est un euphémisme. Ouais. Et j'ai trouvé que côté algérien, c'était plutôt accepté et plutôt facile de parler de tout ça. C'est plus difficile côté algérien de parler de la décennie noire 90-2000, qui, elle, là, est plutôt en travers de la gorge des Algériens.
Est-ce que la bande dessinée, entre autres, permet justement de pouvoir regarder notre histoire, notre passé en face et de se dire « il s'est passé ça ». Est-ce que c'est un des meilleurs vecteurs?
Je ne sais pas si c'est le meilleur vecteur ou un des meilleurs vecteurs, mais en tout cas, c'est un vecteur intéressant. Moi, avec Algérienne, je suis beaucoup, beaucoup rentré dans les collèges et les lycées, énormément. Parce que la guerre d'Algérie est au programme et que, du coup, pour les profs d'histoire, c'était un support hyper intéressant pour faire parler de ce sujet-là. Et pour les élèves, c'était moins effrayant de lire une bande dessinée que de lire... un gros pavé sur la guerre d'Algérie.
Justement, toi, tu es prof d'histoire, alors évidemment, je te vois faire « qu'est-ce que je vais pouvoir dire après ça ?» Mais comment on peut véhiculer de la meilleure façon auprès des jeunes générations ces messages-là et regarder notre passé en face?
Mais en général, étant donné que c'est un conflit qui est relativement récent dans l'histoire de France, c'est les témoignages qui sont en général les plus accessibles et les plus parlants. C'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale, les traumatismes qu'on peut avoir véhiculés à travers ce conflit. Et on retrouve exactement ça dans la guerre d'Algérie. Donc c'est une porte d'entrée inespérée pour les profs d'histoire d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir travailler la question de la guerre d'Algérie.
Elle est étudiée au collège, la guerre d'Algérie?
Elle est au programme de 3e dans le cadre de la décolonisation. Donc elle a tout à fait sa place dans le programme de 3e et de terminale aussi.
D'autres projets?
Oui, j'ai signé plusieurs choses, dont un projet qui me tient pas mal à cœur, où je suis parti quelques semaines en Israël et Palestine. Et là, je vais retravailler avec une journaliste. Enfin, je retravaille avec une journaliste, et c'est un projet documentaire sur les relations amoureuses israélo-palestiniennes.
Ouais.
Voilà.
Mais il y a matière.
Ah oui, il y a énormément de matière. Et à nouveau, c'est un sujet assez compliqué.
Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à la bande dessinée, au dessin?
Oh, c'est le fait d'en lire, en fait. Je suis d'une famille où il n'y avait pas énormément de culture, mais il y avait quelques bandes dessinées, et c'était facile d'accéder à la bande dessinée. On en trouvait assez facilement. On s'en échangeait pas mal. Donc j'en ai d'abord beaucoup lu, ensuite j'en ai fait. Et ensuite, voyant que tout le reste de mes études ne m'amenait pas à grand-chose, je me suis dit le dessin pourrait être un truc vraiment intéressant. Donc je me suis mis à orienter mes études sur le dessin et je suis arrivé à la bande dessinée comme ça.
Qui t'a inspiré?
Alors plein d'auteurs.
J'imagine.
Et surtout, ils ont beaucoup évolué avec le temps. Évidemment, Hergé reste pour moi l'auteur que j'ai le plus lu quand j'étais enfant. Je ne le relis plus aujourd'hui parce que je connais les albums par cœur et je suis moins, comment dire, moins émerveillé, mais c'est resté un auteur très important. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'auteurs dont je suis le travail avec grand bonheur. Mmh. La bande dessinée est devenue un univers hyper riche qui aborde plein de thématiques différentes avec plein de styles graphiques différents. Et en ça, c'est hyper enthousiasmant d'être dans ce média-là aujourd'hui.
Et il tire le livre vers le haut parce qu'aujourd'hui, le secteur est en plein boom. Je crois qu'on est à plus de 5000 paritions par an. Est-ce que finalement, ça fait peur en se disant où est-ce que je vais trouver ma place ? Ou alors finalement, vous dites toutes et tous en tant qu'auteur, autrice de bande dessinée, il y a de la place pour tout le monde ?
On est dans ce paradoxe en fait. Hein. C'est à la fois hyper enthousiasmant parce que, évidemment, il n'y a jamais eu autant de très belles choses publiées au milieu de ces 5000 nouveautés. Et en même temps, c'est très difficile de faire exister un livre aujourd'hui. Un livre, il a sa durée d'existence, un peu comme le cinéma, sur le temps où il va rester sur les tables de libraire. Donc, s'il reste 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est bien. Mais il y a des livres qui où les auteurs ont bossé un an et le livre reste une semaine sur la table de librairie. Donc là, c'est la cata, la cata pour l'auteur. Donc c'est un milieu très concurrentiel de ce point de vue-là, du point de vue de la vente et du point de vue de faire exister un livre une fois qu'il est fini. Et en ça, c'est compliqué quand on est jeune auteur. Moi, je suis plus un jeune auteur, donc je...
Tu fais pas ton âge.
Je sais pas.
Et enfin, on parlait tout à l'heure de l'importance des festivals. Quelle place, toi, t'accordes dans ton temps ? C'est un métier plutôt solitaire, hein, on va pas se le cacher. Parfois à 2, 3, 4, mais en fait, on n'est jamais très nombreux et souvent sur sa planche à dessin, c'est souvent. Quelle importance t'accordes et quel temps t'accordes aux festivals comme ça sur une année ?
Ah, j'en accorde beaucoup de temps. Je suis très souvent en dédicace. Et vraiment, je rejoins Amandine sur ce point-là. C'est que c'est vraiment le moment où on rencontre, j'allais dire nos lecteurs, mais enfin, on rencontre des gens, mais aussi on se rencontre entre nous, entre auteurs, où on peut discuter de tout un tas de choses. Donc c'est un support hyper intéressant, le festival.
Merci Serge.
Merci à vous.
Serge Deloupi, algérienne, puis après appelé d'Algérie, qui a reçu le prix Nouveauté ici au festival Bulle de Burle, Saint-Élimi BD. On fait une petite pause musicale, on écoute d'abord Bon Entendeur, Le Temps est Bon, Tu m'étonnes.
Le temps est bon. across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart.
Neil Young, Heart of Gold, évidemment. Pardon, je t'ai fait sursauter, Raphaël. De retour en plateau et toujours en direct, presque au Denimi BD Festival Bulle de Burle. Nous a rejoint en plateau Jean-Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as créé un site de bande dessinée qui s'appelle Ligne Claire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Enfin, une fois que j'ai quitté le grand et beau journal qui m'abritait depuis pas mal d'années, à savoir Midi Libre, où j'étais rédacteur en chef, ayant la passion de la bande dessinée, je me suis dit qu'il valait mieux couper avec la politique, l'économie et tout ce que j'avais traité pendant des années, et passer à vraiment ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la bande dessinée qui avait bercé ma jeunesse et qui ensuite me permet d'écrire, rencontrer des auteurs, traiter de l'actualité au fil de mon site, effectivement, qui s'appelle ligneclaire.info, maintenant qui est ouvert depuis 10 ans. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'auteurs ici que j'ai déjà eu le plaisir, la joie de rencontrer, voire d'interviewer, voire d'animer dans des rencontres, dans des débats divers et variés. Voilà, donc c'est un plaisir avant tout. Et puis Saint-Enimi est un endroit où je suis venu dès le début du festival, qui était à la base un festival médiéval, je ne sais pas si certains s'en souviennent, où il n'y avait que de la BD médiévale, ce qui était assez réducteur, je dois dire, quand même. Et puis après, Philippe Loulouienne, avec Enimi BD, a changé un petit peu, et au contraire, a considérablement amélioré et renforcé ce festival qui est devenu presque incontournable dans la région en ce mois de juillet. Voilà.
Et c'est sa grande première ici au festival. Il nous a rejoint aussi en plateau Serge Carrère. Bonjour.
Bonjour.
Évidemment, alors, est-ce que c'est ton œuvre la plus connue ? Je ne sais pas, Léo Laden.
C'est le personnage le plus emblématique de ma carrière. Il en fait les 30 ans aujourd'hui, cette année, de ses aventures.
Alors, mais il y a aussi un truc qui m'a étonné, vraiment. T'as repris Achille Talon en 2014, il me semble.
Oui, avec Fab Caro au scénario. Et on a fait déjà 3 albums. Pour l'instant, c'est mis en suspens parce que Fabrice, de son côté, est pas mal sollicité.
Et toi,
et
pas du tout.
Et moi aussi. Et donc, j'ai 3 nouvelles séries en cours, en chantier. Donc, pour l'instant, même si on se régale à faire Achille Talon avec Fabrice Caro, pour l'instant, c'est mis de côté.
Ah, c'est un monument de la BD aussi, Achille Talon et son voisin, Le Funeste.
Oui, Hilarion, Le Funeste.
Justement, c'est quoi un bon scénario pour toi ?
Ah ben ça dépend du sujet, mais un bon scénario, c'est une histoire qui vous accroche et dont vous avez envie de connaître tout jusqu'à la fin. Alors c'est soit sur un seul album, soit sur plusieurs albums, mais il faut que vraiment le scénariste sache tenir en haleine par différentes stratégies, soit du suspense, soit de l'humour, soit de l'action, enfin, alterner comme ça tous les types de sentiments que va procurer à la lecture de son livre.
Qu'est-ce qui t'a amené à la bande dessinée ?
Moi j'ai appris à lire dans la BD, dans le journal Pilote. À 10 ans au collège, j'ai créé un club de BD. Et donc j'étais greffé déjà avec des adultes qui me montraient des bandes dessinées que je ne connaissais pas, comme Alex Raymond, Bernogart, enfin toute l'école américaine. J'ai eu l'occasion après de rencontrer Bernogart, de dédicacer à côté de lui. Pour moi, c'était vraiment un grand moment.
rencontrer ces maîtres, entre guillemets, ça fait toujours quelque chose. Et il y a des gens que tu aurais aimé rencontrer ?
Alors oui, là j'ai deux regrets, c'est de ne pas avoir rencontré Goscinny et surtout Maurice Tillieu, qui a été quand même le déclencheur de mon envie de faire ce travail.
Et alors c'est complètement fou parce qu'on en parlait hier hors antenne, puisque Tillieu est mort de façon absolument...
Dans un accident de voiture, lui qui a toujours dessiné des accidents de voiture, et là malheureusement, il y est resté.
Et Goscinny justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à sa cheville dans la bande dessinée en tant qu'auteur ?
Alors je pense qu'il ne faut pas partir avec cette idée-là. Chaque scénariste, comme chaque dessinateur, en définitive, même s'il y a une inspiration, il doit après trouver sa propre musique. Et le problème, c'est que quand on reprend une série, bon, moi c'était Greg, mais bon, ceux qui ont repris Astérix, on a toujours tendance à les comparer, parce que on regrette toujours la disparition prématurée de Goscinny, mais il ne faut pas partir avec cette optique-là, chacun a son propre talent, quoi. Donc il y a des grands scénaristes.
Jean.
Oui, il a tout à fait raison, Serge a raison, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vivre systématiquement avec l'image du passé, et même si Goscinny était génial, on a d'excellents et de très grands scénaristes aujourd'hui qui deviendront les Goscinny d'hier, enfin, je veux dire, c'est évident. Alors, ça, on le voit par exemple pour des reprises de Jacobs, on le revoit, alors bon, c'est plus ou moins inégal, souvent dans les reprises, c'est surtout là où on peut juger un peu de la qualité du scénario, mais quoi qu'il en soit, on a de très grands scénaristes. Van Hamme est un très grand scénariste, Jean Dufaux est un très grand scénariste, il y a, je sais pas, Corbeyran, Pecaud, enfin, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui de grands talents du scénario. Et puis, encore une fois, comme le disait très justement Serge, une BD, c'est avant tout une bonne histoire. Et un bon dessin, mais voilà. C'est une bonne histoire.
C'est le paradoxe, c'est le dessin qui va attirer l'œil du public, et ensuite c'est l'histoire qui va faire revenir le lecteur. Au début il est public, après il est lecteur, et si l'histoire est bonne, bien, il va revenir à la lecture des trucs. Donc, pour moi aussi, dans les grands scénaristes, il y a le regretté Raoul Comin, qui était vraiment un excellent faiseur. Et j'ai eu la chance, moi, de bosser avec quand même Marley Stone, qui est une pointure aussi.
Ouais.